je vous assure, on est nombreux à avoir pris. Je pense que si on faisait un tour de table, je vois. Bon, il y a Monsieur Vidal Revel qui vient d'arriver dans la régie. Bon, je ne sais pas si lui-même a pris quelques drogues aux audiences, peut-être. Il se dope. Mais parce qu'elles sont très puissantes en ce moment sur Europe 1, elles sont dans le bon sens. Mais autrement, des gens qui ont, il y a moins de gens qui ont pris de la drogue en France que, et tant mieux d'ailleurs, que de gens qui en ont pris.
Là où je vous rejoins, et c'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui, effectivement, notamment au volant, on a des contrôles beaucoup plus poussés, donc on avance doucement, mais ce que je voulais, je rebondis surtout sur, moi j'ai mon papa qui a été, qui est parti prématurément, cause, moi je suis pas intolérant, parce que, mais je trouve que on veut une société au risque zéro, et quand même, on vous dit, oui, mais il faut plus manger les œufs en Île-de-France, parce qu'il y a des pesticides, il faut plus les poils, etc. Et par contre, je trouve quand même qu'on ne parle pas, on parle pas suffisamment.
De l'alcool.
Alors, y a pas d'étiquette sur une bouteille.
Stéphane va être là. Stéphane va être là, mais vous voyez, pendant qu'on parle, je reçois un petit SMS de mon amoureuse qui me dit « Et quand tu me dis que je n'ai qu'un défaut, que je ne bois pas, bien sûr qu'il y a une pression sociale qui pousse à boire.
» Voilà. Bien répondu, madame. Bravo.
Mais franchement, d'abord, elle n'a pas de défaut du tout. Stéphane. Bonjour, Stéphane.
Bonjour Pascal.
Alors vous êtes un ancien alcoolique.
Oui.
Vous avez quel âge ?
J'ai 50 ans.
Et vous avez arrêté de boire à quel âge ?
J'ai arrêté, je me suis offert ce cadeau pour mes 40 ans.
Donc ça fait 10 ans que vous n'avez pas touché une goutte d'alcool ?
En réalité, ça fait 11 ans. Mais bon, je me suis offert pour mes 40 ans. J'ai arrêté peu de temps après.
Et est-ce qu'on peut savoir la consommation qui était la vôtre quotidienne ?
Je peux citer une marque.
Oui.
Je buvais environ entre 1 litre et 1 litre et demi d'une boisson anisée assez forte tous les soirs.
De Ricard ?
Oui.
Alors, je vais citer aussi Pernod, qui est son concurrent.
Voilà.
Vous buviez 1 litre et demi tous les soirs de Ricard ?
Oui.
Mais avant le soir, vous aviez déjà commencé à boire ?
Non, j'essayais d'avoir une tenue assez correcte en journée, pour ne pas que ça se voit.
Mais je suis toujours surpris de ça. En combien de temps vous buviez 1 litre et demi de Ricard ?
Oh, les alcooliques sont des gens qui ont beaucoup de rituels. Donc, en fait, je passais ma soirée, j'allais me coucher vers 23h minuit. Et je commençais, il devait être à peu près 19h, 20h.
Mais vous étiez en couple ou vous étiez seul ?
J'étais en couple.
Et votre femme, que disait-elle à l'époque lorsque vous serviez Ricard sur Ricard ?
Elle m'a vu m'enfoncer doucement. Je lui ai plusieurs fois tendu la main pour avoir de l'aide. Ce qu'elle m'a refusé, ce que je peux comprendre, parce que c'est quelque chose de dur à vivre pour l'entourage. Et donc, je m'en suis sorti seul un jour avec des alcooliques anonymes.
Et quand vous vous couchiez à 23h, vous vous réveillez à quelle heure le lendemain ?
Ah, le lendemain, à 6h, j'étais sur le pont.
Bah, vous avez une belle santé déjà. Vous faisiez quoi comme métier à cette époque-là ?
Je travaillais sur un plateau d'appel.
Sur un plateau d'appel ? Et aujourd'hui, oui. Vous êtes toujours dans ce métier ?
Non.
Vous avez changé de métier, vous faites quoi aujourd'hui ?
J'ai totalement changé. Alors là, aujourd'hui, je suis en invalidité, parce que j'ai une maladie assez invalidante.
Ah, pardonnez-moi. Mais vous récupériez donc entre 23h et 6h du matin, en 7h, vous étiez sur le pont, comme vous dites, après 7h, après quand même un litre et demi. Oui. Hein, donc c'est-à-dire que tous les jours, la bouteille de Ricard, c'est un litre sans doute ?
Oui, je prenais que des grosses bouteilles en 1,5 litre.
D'accord. Et vous le diluiez avec de l'eau ou vous le buviez pur ?
Très peu d'eau. Dans des grands verres de 25 centilitres.
Et comment cette addiction était-elle arrivée ?
Bêtement. J'ai un ami qui un jour est venu et m'a proposé un apéritif le midi, chose que je ne faisais pas. Et l'habitude s'est installée. Et l'apéritif du midi s'est transformé en l'apéritif du soir, avant le repas. Il s'est prolongé après le repas. Et l'alcool est un produit sournois et insidieux.
Mais là, par exemple, si je vous propose un Ricard, vous n'allez pas le boire ?
Ah non, je ne bois plus du tout. Ça fait 11 ans que je suis abstinent. Ouais.
Vous dites, si je retouche une goutte d'alcool, je retombe dedans. Ce qui nous étonne toujours, évidemment, nous qui ne sommes pas des alcooliques. Ça, c'est important de le dire, Stéphane.
Ah oui, absolument. C'est une maladie, on ne le dit pas assez. Je n'ai pas choisi cet état-là. J'aurais préféré pouvoir, comme tout le monde, boire un verre, deux verres et m'arrêter là. Simplement, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. L'alcool est un produit très sournois et vient s'immiscer dans les neurones au niveau des synapses. Et là, effectivement, on tombe dans l'addiction assez facilement. Il suffit en plus, quand on est un peu fragile, d'être dans un mauvais passage de sa vie et l'alcool vient s'installer et combler un vide. Après, concernant les propos de Léa Salamé, je ne les condamne pas. Enfin, il y a tellement plus grave aujourd'hui dans le monde. C'est juste que je trouve qu'on ne fait pas assez de prévention concernant ce produit. C'est une roulette russe. À chaque fois qu'un jeune prend un verre, c'est une roulette russe. On ne sait pas, si on prend une classe de 30 élèves, on sait en les regardant que dedans, il y a forcément un ou deux alcooliques. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de les prévenir dès tout jeune?
Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des dizaines et des dizaines de campagnes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu des campagnes, mais très, très fortes, très puissantes. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a de moins en moins d'alcooliques. Vous savez, jadis, dans les campagnes, dès l'âge de 10, 11, 12 ans, tu buvais. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu seras un homme, vous savez, on disait tu seras un homme en buvant. Tout ça, ça n'existe plus. C'est beaucoup plus. Et en plus, c'était du mauvais vin. Et je vous parle pas dans ce qui se passait dans les. Oui, vraiment dans les campagnes, dans toute la population rurale. Il y a quand même beaucoup de campagnes de prévention. Vous ne trouvez pas?
Regardez sur les paquets de cigarettes, c'est marqué fumer peut tuer l'enfant que vous attendez. Boire peut tuer les enfants que vous avez
déjà.
Oui,
bien sûr. Mais, et puis là, je vais vous dire, là où je suis moins aussi d'accord avec vous, mais moi, ça, c'est mon ADN, il y a un moment où les gens sont responsables. J'en ai marre, c'est pas à l'État de te prendre par la main. C'est ta vie, quand même. T'es un peu responsable de ce qui t'arrive. Tu sais que si tu bois beaucoup, ben, ça n'est pas très bien dans la vie. Donc, c'est aussi une question d'état d'esprit. Moi, je veux bien qu'on prenne les gens. On ne peut pas d'un côté dire... l'État infantilise trop, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, où gardez votre masque, dites bonjour à la dame, mangez ceci, etc. Et puis, de l'autre côté, expliquer qu'il n'en fait pas assez, qu'il faut qu'il en fasse plus.
Mais on peut quand même, ça n'empêche pas d'alerter, encore une fois, sur les paquets de cigarettes, c'est fait.
Et vous voudriez mettre quoi sur une bouteille de vin, boire le vin tue, boire du vin tue?
Ah ben on pourrait mettre que ça détruit le foie, l'œsophage, que ça détruit l'estomac, que c'est effectivement que ça peut rendre violent, que ça peut rendre...
C'est vrai d'ailleurs.
Bien sûr.
Bah écoutez, en posons la question, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette émission est faite pour échanger les points de vue. Posons la question à Monsieur Guénèque, est-ce qu'il faut inscrire sur les bouteilles... boire-tu, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais boire-tu d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que vivre-tu, c'est bien le souci. c'est que la première
c'est
cause...
C'est une sacrée vision de la vie.
C'est-à-dire que vieillir-tu.
Oui, voilà. Vous parlez de qui, là? Non?
Non, mais conduire, tu peux mettre aussi sur une voiture, conduire-tu?
Oui.
Bon, Pascal, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux lire un petit message?
Je vous en prie.
Avant de changer de sujet.
Oui, vous en prie, ce que je dis.
Non, pas du tout. Voilà, mais il y a un programme, monsieur, il y a un programme. Non. Alors, on a Greg qui nous
dernière
écrit...
chose quand même, est-ce que votre maladie, Stéphane, est due à l'alcool?
Non, du tout. Ça n'a absolument rien à voir. C'est quelque chose que j'ai depuis tout petit et qui, en fait, en vieillissant, est de pire en pire, tout simplement.
Bon, j'espère que les choses... Alors, quand vous dites que c'est de pire en pire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que ça aille mieux?
Non.
Non,
ça n'ira jamais mieux.
Bon, écoutez, je crois comprendre à mot couvert ce dont vous souffrez, ou en tout cas le type de maladie dont vous souffrez, et je vous souhaite bon courage dans ce qui doit, être une épreuve, j'imagine, Stéphane.
Oui, merci beaucoup en tout cas.
Écoutez, ça serait bien d'ailleurs que vous nous appeliez, pourquoi pas régulièrement. Je ne sais pas si vous nous avez appelé au standard, et c'est bien de poursuivre parfois des discussions et d'avoir un suivi. Et puis si on peut vous aider, c'est assez bête à dire ce que je dis là, mais si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, eh bien...
Mais j'ai eu souvent l'occasion de vous rencontrer dans les rues de Nantes, et notamment proche du stade, j'habite en plus juste à côté.
J'y vais plus beaucoup. Vous n'avez pas dû me voir depuis longtemps. Hein.
Parce qu'à Nantes, que je vous ai pas croisé dans les rues de Nantes.
Il y a longtemps que je n'ai pas dîné avec la maire de Nantes. Il y a longtemps qu'elle ne m'a pas invité chez elle pour prendre un petit verre.
Ça va venir.
Vous savez qu'à Nantes, maintenant, parce que je suis un peu dans l'Ouest, à Nantes, je ne viens plus que le 25 décembre. Vous voyez? Et je repars généralement le 26. Donc comme ça, c'est...
Avec nos belles décorations.
Bah oui. Ah oui, il n'y a même pas les décorations, vous avez raison cette année. Mais quand j'arrive, la ville est plutôt tranquille. Vous habitez près du stade de la Beaujoire ?
Oui, juste à côté.
Il y a Nantes-Brest, hein, Brest-Nantes, ce samedi à 15h.
Oui.
Et grand match.
Belle affiche.
Bah oui, et Nantes a intérêt de gagner, hein, je vous le dis. Bon, Stéphane, faut, appelez-nous quand même. Appelez-nous et puis on va essayer de, voilà, de garder le contact.
D'accord. Et bravo pour tout ce que vous faites, Pascal.
Eh ben, vous êtes gentil. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Guénec.
Un petit message? Allez.
Bah, pourquoi un petit? Un message? Pourquoi serait-il petit? Pourquoi ce message doit-il être petit, forcément?
Non, vous commencez pas.
Non, mais vraiment, c'est énervant, ça aussi.
Passons là aujourd'hui. Pas maintenant, monsieur. Non.
Un message. Un grand message. Un message d'espoir, peut-être.
Ah, ça, c'est pas mal. J'aime bien ça. Message d'espoir. Oui.
Belle Hélène.
Ah, poire Bélène, je l'ai. J'en peux plus.
Le burn-out. Poire Belle Hélène. On pourrait écouter la Belle Hélène. La Belle Hélène d'Offenbach, on pourrait écouter ça.
Non, on va pas le faire, mon
pote. Le roi Babu, qui s'avance ce but, qui s'avance c'est ta gamme. Non, oui, c'est ta gamme, mais non. Je suis l'épouse de la reine Pou, le roi Ménélas, le roi Ménélas. Vous connaissez pas ça?
Non!
Hein.
Allez, c'est bon.
C'est la Belle Hélène de Jacques Offenbach.
Mais je me doute, d'Offenbach.
Bon, allez. D'ailleurs, on peut dire Offenbach aussi.
Offenbach!
Pression.
J'en peux plus. Allez. On a Greg qui nous écrit sur notre grosse page Facebook.
C'est le chant des rois dans la Belle Hélène.
Si vous voulez pas que je dise des messages,
si,
vous me dites,
dites
non,
des messages.
Non, mais
allez,
franchement,
dites-le.
Mais soyez clair.
L'espoir Belle Hélène. Mais
fini,
on a l'esprit d'escalier. D'espoir à Belle Hélène, on est passé à Belle Hélène.
Moi, vous savez, hein, je peux ne pas le faire. Hein.
Vous êtes déjà trop payé, à mon avis. Allez-y.
C'est gonflé venant de vous. Allez, Greg, nous écrit. Greg nous écrit non, Léa Salamé n'a pas été trop loin. On a très bien compris le trait d'humour, mais il y a une pensée commune, certes un peu malvenue d'un point de vue santé, mais encore une fois, c'est surtout un trait d'humour. Voilà, Pascal.
11h41, monsieur
Pascal Pro sur Europe 1.
Ah bah maintenant je suis au taquet. Hein.
C'est la mode là, les jingles dans la figure.
Ça va bien aujourd'hui,
ça va très bien.
Fabrice Lafitte?
Ah oui, ça va très bien, je suis à mon 10e café.
Non mais c'est un bon, et tout va bien. Et vous avez trouvé le discours des rois dans la Belle Hélène ou pas?
Non, j'étais en train de chercher justement.
Eh ben, voilà. Alors, je pense que vous le trouverez demain matin.
Ça me revient. 1864 pour Belle Hélène. C'est ça, non? Non? Ah, j'ai mal entendu ce qu'on m'a dit alors.
Non, la Belle Hélène, c'est de 1864, ah, mais pas la Boire Belle Hélène.
Oh non.
La Belle Hélène, c'est l'opéra de Offenbach.
Ah, oh là là, mince.
Mais c'était, alors on écoute ça souvent à Noël, vous savez, mais dans le temps, on allait, là encore, on avait 12 ans, 13 ans, et on nous emmenait voir ces choses-là, il y avait l'opéra, puis l'opérette de temps en temps, ou l'opéra bouffe. C'est pas un opéra où on pouvait manger, hein, l'opéra bouffe, c'est autre chose.
D'accord. Et on n'emmène pas son pique-nique à l'opéra.
L'opéra pique-nique. Bon, allez, on va parler de Sciences Po. Et après la pause ou pas?
13h.
Pascal Pro sur Europe 1.
C'est jingle party.
Moi, il me fait peur, c'est jingle party. Mais qu'est-ce que
c'est jingle?
Mais dites-moi, ça va ou?
Je suis payé au jingle maintenant.
Non, mais vous êtes les moufles.
Les moufles, oui.
Ah, vous savez que j'ai un titre.
Oui.
Champion du monde, moufle d'or depuis 2018. Et je tiens à le garder.
Ah, bon. Alors là on ne fait pas de pause.
Non. On est avec Jade.
On est avec Jade. Jade, bonjour. Jade,
on va faire une pause. Hein.
Oui.
On va faire une. Jade, bonjour. Vous êtes à Sciences Po Paris?
Oui, tout à fait.
Ah ben, je reconnais votre voix. Vous nous avez appelé déjà plusieurs fois. Vous avez quel âge, Jade?
22 ans.
Vous êtes en quelle année?
En Master 1.
Bon, hier, on était avec Pierre Alexandre, que vous avez peut-être écouté sur l'antenne, qui soulignait qu'à Sciences Po Paris, il a envie de bosser, que c'est une minorité qui, entre guillemets, bordélise les amphis et que cette minorité empêche de travailler, milite alors que c'est pas forcément le lieu. Et cet étudiant était sur cette position. Quelle est la vôtre, Jade?
Ah bah je le rejoins à 100%. On est en pleine période de partiel pour certains qui ont commencé hier. Et on a vendredi, on pouvait plus accéder aux bibliothèques. Enfin, on avait des gens qui ont carrément bloqué le campus. Enfin, on arrive à un niveau où l'instrumentalisation de certains sujets du Moyen-Orient qui ne sont pas censés en arriver à ce stade-là à Sciences Po viennent perturber les cours.
Et quel est votre sentiment, quelle est votre réaction dans ces cas-là?
On a une administration qui fait un communiqué lunaire donc vendredi soir, qui revient à peu près sur ses déclarations aujourd'hui dans une interview au Monde. Une espèce d'instrumentalisation de la cause palestinienne par LFI, puisqu'on a vu que tout LFI s'est réuni devant Sciences Po vendredi. Un sentiment d'abandon aussi de la part des étudiants, qui je pense sont majoritaires, parce que finalement ils étaient quoi, peut-être maximum 300-500 devant Sciences Po, mais une promo c'est bien plus que 500 élèves. Donc si on fait le calcul, je pense qu'il y a une énorme majorité d'étudiants qui ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a une espèce d'aseptisation du débat à Sciences Po. Hein,
oui, puis ils ont peur. Ils ont peur. Voilà. Vous avez été impacté en premier lieu par ces mouvements de grève. Vous faisiez par exemple des cours dans le jardin.
En fait, on était en cours, enfin, je devais avoir un cours à 17h. Et à 17h, tous les campus de Sciences Po ont fermé. Donc, on savait très bien qu'on ne pouvait pas rattraper le cours plus tard, parce qu'on a des examens qui arrivent. Donc, avec l'enseignante et le reste de la classe, on avait pris la décision d'aller dans un jardin dans le 7e arrondissement pour pouvoir continuer le cours. Ouais.
Et ça, c'est arrivé une fois ou plusieurs fois?
Non, ça c'est arrivé une fois, par contre que le campus ferme suite au blocage, non, c'est pas la première fois.
Donc vous avez manqué à peu près combien de cours depuis un mois?
J'ai de la chance parce que mes cours généralement ne tombent pas quand il y a les blocus, sauf là, donc là, pour moi, un seul.
Écoutez, c'est un moindre mal, si j'ose dire. Là, vous êtes où là en ce moment? Vous êtes à Sciences Po Paris?
Non, pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui. C'est ce que j'ai cru comprendre, qu'il n'y avait pas de cours en ce moment. Donc là, vous êtes dans la période de révision parce que les examens sont programmés quand?
Moi, j'en avais un hier, par exemple. Donc
ça s'est bien passé. Et vous avez passé quoi hier?
Droit de la concurrence.
Droit de la concurrence. Et vous avez envie d'être dans quelle filière?
Droit des sociétés, principalement, fusion-acquisition.
Bon, écoutez, bravo, hein, et puis ce témoignage est intéressant, et je vous en remercie grandement. Merci, Jade. On va écouter Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, il est député du RN, et il était invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1.
Ça fait des semaines qu'on a vu le braquage de LFI, que LFI a fait de Sciences Po. Braquage salué par les autorités religieuses iraniennes, les ayatollahs iraniens, trouvaient ça très bien, vous me direz, entre ayatollah de LFI et ayatollah iranien, on se comprend probablement.
De l'enseignement supérieur, Monsieur Chenu pointait sa responsabilité.
Le gouvernement, en tous les cas, Madame Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, totalement disparue. Combien de temps il a fallu pour qu'elle se réveille? Enfin, je me rappelle que c'est cette ministre qui voulait démissionner pendant la proposition de loi sur l'immigration, qu'elle le fasse maintenant.
Quand le Premier ministre dit on ne transigera pas, quand il avait été il y a quelques semaines à Sciences Po Paris, vous estimez que véritablement Gabriel Attal veut laisser voir proliférer ce genre de manifestation?
Mais ce sont des mots, ils sont incapables d'autorité. Quand vous voyez ce que la direction paillasson de Sciences Po a fait, c'est-à-dire pas de punition pour les bloqueurs, ils ont laissé finalement les choses se tenir, des tentes dans la cour de la Sorbonne qui était en train d'être montée, je crois, hier. Enfin, je veux dire, que ce soit la direction paillasson de Sciences Po ou que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce sont des gens qui ont peur.
Sylvie Retailleau, parlons-en. Elle est ministre de l'Enseignement supérieur et elle est pointée du doigt. Elle était ce matin sur France 2 vers une généralisation du mouvement. Écoutons-la.
Et vous redoutez une généralisation du mouvement ou pas?
Alors, on est très, très vigilants.
Il y a
des appels, comme je vous le disais, il y a des appels, et malheureusement des appels qui sont relayés, instrumentalisés, et effectivement, c'est une minorité qu'on a dans ces établissements. À chaque fois, vous voyez, sur Sciences Po, c'est 15 000 étudiants. Mm-hmm. Allez, si on avait 80 étudiants au départ, il faut savoir que le soir, il en restait 14. Donc, on est vigilant. Et jeudi, j'ai invité l'ensemble des présidents d'université avec moi à discuter, parce qu'il faut être vigilant pour avoir cet équilibre entre l'expression, vous le disiez, c'est toujours délicat, et puis le non au blocage.
Et puis Sylvie Retailleau a précisé que l'État ne coupera pas ses subventions à Sciences Po. Bruno Retailleau, lui, est président du groupe Les Républicains. Il n'a évidemment aucun rapport avec Madame Sylvie Retailleau. Il était ce matin sur TF1.
C'est pas un chantage. Moi, j'applaudis. Je dis bravo Valérie. Elle a eu raison. C'est pas de la com. c'est pas d'accord. Parce que Sciences Po, comme les universités, doivent rester des lieux de transmission. Et malheureusement, à Sciences Po, le laxisme a gagné. Jadis, on disait que Sciences Po était la fabrique des élites. C'est désormais, malheureusement, devenu la fabrique de la bêtise idéologique.
Et M. Retailleau, évidemment, réagissait à Valérie Pécresse qui a décidé de suspendre l'aide de la région à Sciences Po. Alors, Yvonne Lescauze est avec nous. Vous êtes délégué national du syndicat Étudiants Unis. Moi, ce qui me frappe toujours dans cette affaire, c'est que c'est une minorité d'étudiants. C'est-à-dire, c'est quelques étudiants à Sciences Po. Je crois qu'il y a 2000 étudiants sur le campus de Paris. Il y a 15 000 en tout. Et c'est moins de 200 personnes.
Mais Madame le ministre de l'Enseignement supérieur a même parlé de 80 personnes au début et 14 personnes à la fin. Mais ce qui est scandaleux, c'est de voir que seulement 14 personnes peuvent permettre que le gouvernement plie, peuvent permettre que Sciences Po plie. Parce que, faut le dire, quand Sciences Po se soumet comme ça a été le cas, quand le gouvernement se soumet, finalement, c'est la France qui se soumet à une extrême minorité qui n'est pas seulement pro-palestinienne, qui est également pro-Hamas, parce que j'étais sur place à Sciences Po Paris et j'ai entendu les chants et les slogans qui étaient chantés. C'était « From the river to the sea », donc qui est un slogan également repris par le Hamas qui demande tout simplement la disparition d'Israël et d'autres slogans en soutien à la résistance palestinienne. Donc c'est d'autant plus un aveu d'échec pour Sylvie Retailleau d'admettre que 14 étudiants ont permis à Sciences Po Paris de plier.
Comment vous expliquez la réaction de la direction de Sciences Po ?
Mais c'est une réaction... Ils ont eu peur, ils sont terrifiés, ils savent qu'ils ont un ministère de l'enseignement supérieur qui ne va pas les soutenir. C'est toujours la même politique de pas de vague parce qu'on a Gabriel Attal qui fait de grandes annonces à chaque fois en expliquant que la politique du pas de vague c'est fini. Mais en attendant, la politique du pas de vague, on peut le voir, elle continue. Et actuellement, parce que je pense que c'est important de le dire, on n'a pas que Sciences Po Paris qui est bloqué parce que là, de toute façon, ils sont en période de révision. Mais on a de nombreuses IEP, de nombreuses Sciences Po qui sont bloquées à travers la France, à Rennes, à Menton, à Strasbourg, à Saint-Étienne. Et ils sont tous bloqués parce que le ministère de l'enseignement supérieur a failli et parce qu'ils savent qu'aujourd'hui ils peuvent bloquer un établissement et l'occuper sans même être sanctionnés.
Le rapport avec les autres étudiants, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de pressions qui sont faites sur les étudiants ?
Je peux vous donner un exemple même très précis. Quelques jours après notre action avec l'UNI pour la venue de Mélenchon, lundi dernier, à Sciences Po Paris, un de nos militants a été reconnu mercredi et il a été interdit d'entrer en certaines pièces de Sciences Po, notamment le patio où tout le monde se réunit, parce qu'on a reconnu qu'il était de droite et donc il était pointé comme fasciste, comme sioniste et il a été interdit d'y pénétrer par des militants cagoulés antifascistes.
Et ça, c'est courant. Des militants cagoulés à l'intérieur de Sciences Po qui interdisent à un autre étudiant, mais c'est des étudiants ces gens-là ou c'est des militants de l'extérieur ?
Dans Sciences Po, ce sont des étudiants et à l'extérieur, c'était des militants extérieurs.
Mais que fait la direction, par exemple, si cet étudiant, j'imagine, il est allé se plaindre ?
Alors, il est allé se plaindre, mais comme d'habitude, la direction n'agit pas. Donc, le problème, c'est que malgré plusieurs plaintes, je vais donner un autre exemple, même en dehors de Sciences Po, on a eu une assemblée générale hier qui a eu lieu à l'université de Grenoble et un militant de l'UNI a voulu, donc sur la Palestine, un militant de l'UNI a voulu y assister. Mais juste y assister, il n'avait même pas un suite uni, voilà. Il voulait y assister. Il a été reconnu comme un militant de droite. Il a reçu un coup de poing au visage et il a été jeté de l'amphithéâtre. Et j'ai écrit à la direction.
Il a porté plainte ?
Il n'a pas porté plainte pour des raisons personnelles parce qu'il va avoir une carrière dans le public.
Mais, oui, mais il faut qu'il porte plainte, ce jeune homme, quand même. Mais s'il a pris un coup de poing, il a pris un coup de poing au visage.
Il a pris un coup de poing au visage.
Il est blessé, j'imagine ?
Disons qu'il a eu un peu mal, mais il n'y a rien de grave. Mais il n'y a rien de grave. Dans le geste, c'est grave.
Bah, évidemment que c'est grave.
Par contre, j'ai écrit directement à la direction de l'Université de Grenoble. Je n'ai toujours pas eu de retour. Et ça, c'est systématique.
Non, mais l'IEP de Grenoble, c'était un souci, semble-t-il. C'est là qu'il y avait ce fameux enseignant que j'avais reçu, d'ailleurs, qui avait été menacé il y a quelques années.
Justement, c'est bien d'y venir, parce que là, je parle de la présidence de l'Université de Grenoble. Mais l'IEP de Grenoble, c'est bien d'y venir, parce qu'on parlait de la suspension des subventions à Sciences Po Paris de Valérie Pécresse. Il faut savoir que je suis moi-même étudiant à Sciences Po Grenoble. Et à Sciences Po Grenoble, ça a été fait par Laurent Wauquiez, suite à l'affaire justement des deux professeurs qui avaient été menacés car apparemment islamophobes. Et ça a très bien marché parce que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de subvention pour Sciences Po Grenoble et la direction a complètement changé son management. Et aujourd'hui, on a des étudiants, lorsqu'ils bloquent, qui sont sanctionnés et qui ont été renvoyés. Donc on voit bien que quand on coupe les subventions et quand on touche au porte-monnaie des établissements, quand on a touché au porte-monnaie de Sciences Po Grenoble, Sciences Po Grenoble a changé sa manière de gérer.
Bah écoutez, c'est ce que vous nous rapportez est évidemment sidérant. Et puis, il y a des gens qui ont envie de travailler. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est que ces militants, ils ont compris que dans la vie, ils auront beaucoup de mal. Et ceux qui ont beaucoup de mal, parfois dans la vie, ils ont choisi une filière dans laquelle ils pourront s'exprimer, c'est le militantisme. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, de faire carrière dans d'autres jobs que d'être un militant. Militant, c'est un peu plus facile. Et souvent, ce n'est pas les étudiants les plus brillants qui vous retrouvez en train d'empêcher de travailler les autres. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Je dirais pas que vous vous trompiez, mais malheureusement, il y a aussi une forme d'élite, je dirais, très déconnectée, très parisienne, qui justement participe au blocage de Sciences Po. Mais ce que vous dites fait aussi partie des personnes qui le font. Mais je pense que c'est aussi important de revenir, par contre, sur la réaction de Sylvie Retailleau. Hier, j'étais en réunion avec elle, Sylvie Retailleau, et je lui ai parlé du sujet du militantisme pro-palestinien. Et malheureusement, elle a fui le sujet et elle n'a pas réussi à nous garantir que tous les militants seraient sanctionnés.
Voilà, parce qu'elle a peur. Alors vous-même, vous êtes un militant, mais vous êtes un militant pour contrer les militants, justement. Vous êtes un militant pour pouvoir bosser. Vous n'êtes pas un militant politique pour imposer des idées aux autres.
Et surtout, on respecte la loi.
Europe 1, Pascal Pro et vous.
Le rire, vaste sujet, Philippe Vall est avec nous pour son livre Rire. Seul le grand souffle du rire redonne à notre vieux monde l'éclat de l'éternelle nouveauté aux éditions donc de l'Observatoire. Alors appelez-nous, est-ce que vous êtes nostalgique d'une forme de rire, d'un second degré peut-être qui n'existe plus, d'une dérision, d'une légèreté, de rire. Qu'est-ce qui vous fait rire aujourd'hui également? Donc vous pouvez, on va rappeler d'ailleurs le téléphone.
01 80 20 39 21.
Philippe Vall, on a commencé l'émission tout à l'heure avec Léa Salamé. Et c'était intéressant parce que Léa Salamé, samedi soir, dans son émission Quelle Époque, répondait à un humoriste Artus qui se félicitait d'avoir arrêté de boire et de fumer pour gérer ses angoisses. Et Léa a dit « Vous êtes devenu chiant ». Bon. Et elle a dit ça, me semble-t-il, c'est du second degré. Elle a joué avec son invité. Elle a joué avec la caricature de ce qu'on pense et de celui qui ne boit pas. Eh bien, c'est une polémique. C'est une polémique sur les réseaux sociaux parce que tout le monde a pris cette phrase qui est du second degré, tout le monde l'a pris au premier degré. Et je crois qu'on est au cœur, d'une certaine manière, de votre livre.
En tous les cas, d'un des thèmes dans le bouquin, oui. C'est sûr, ça montre que c'est répandu grâce à la stupidité qui est exponentielle dans les réseaux sociaux. L'algorithme vous enferme dans votre propre connerie, il faut bien le dire, de plus en plus. Il s'ensuit une espèce de puritanisme. Ce que je pense est sacré, les mots sont tabous, on ne doit pas dire ceci, on ne doit pas prononcer tel mot. Ce qui fait que ce qu'a dit Léa, qui est plutôt rigolo, parce que c'est transgressif, elle transgresse le tabou des campagnes de santé contre le tabagisme et l'alcoolisme. Bon, mais c'est rigolo de le faire. Comme vous disiez tout à l'heure, des fois on est énervé parce que l'État nous dit de faire. Alors bon, moi je suis pas contre les campagnes de santé, contre le tabac, etc. Mais c'est bien de pouvoir en rire aussi. Si on ne peut pas en rire comme l'a fait Léa, alors on est foutu, il faut tout arrêter.
Et elle va être obligée peut-être de s'excuser samedi prochain. Vous savez, il y a un côté procès de Moscou. Les procès. C'est-à-dire qu'on venait s'excuser de la blague qu'on avait faite.
Non, mais il ne faut pas s'excuser. Je pense qu'il ne faut absolument pas s'excuser. On peut dire, écoutez, j'assume ma blague, c'était une blague. Si vous ne comprenez pas ma blague, la bêtise, elle est dans l'œil de celui qui regarde ou dans l'oreille de celui qui l'écoute, mais pas de mon côté.
Alors nous, on a du mal parce qu'on est d'une génération qui avait grandi avec un second degré qui était très présent, on pouvait se moquer de tout. Moi, je me souviens de Jacques Martin. Souvent, j'ai cité cet exemple-là. Jacques Martin avait été élevé par les prêtres dans des écoles catholiques. N'avait pas de mots assez durs pour se moquer de la religion. Et il jouait lui-même très souvent le vieux réac, le vieux ringard qui se moque de la société d'aujourd'hui et qui la critique en référence au maréchal Pétain, que sais-je, etc. Mais personne ne prenait ça pour du premier degré. Il jouait.
Non, il y avait des émissions le dimanche matin sur Europe notamment, quand j'étais petit, avec des humoristes qui étaient à mourir de rire et qui étaient horriblement transgressifs et qui avaient très très mauvais goût. Enfin, rappelez-vous, alors Jacques Martin évidemment, le jeune Jacques Martin était à mourir de rire, avec Jean-Yann, avec Francis Blanche, ils ont fait quand même des matinées de radio qui étaient historiques. Et on ne rit pas de ce qui est permis. Il y a un rire de ricanement qui est un rire de connivence avec des gens, les gens avec lesquels on est d'accord, et on leur montre à travers nos petites blagues, nos petites vannes, comme ils disent, qu'on est d'accord avec eux et qu'ils sont d'accord avec nous. Alors, on rigole ensemble d'être d'accord ensemble. Mais c'est pas ça, le rire. Le rire, c'est ce qui nous percute. C'est la bêtise ou le truc énorme qui nous surprend. Imaginez quand même, au XVIe siècle, on peut difficilement imaginer la Renaissance sans que Rabelais fasse exploser les portes de tous les conformismes à ce moment-là. Et par ces énormités érudites, mais ces énormités scandaleuses, c'est par là, c'est par les failles du scandale, notamment que Rabelais expose dans ses bouquins, dans les premiers livres, deuxième livre, troisième livre, quatrième, c'est magnifique. Vraiment, il pisse des tours de Notre-Dame et le géant, et ça fait une inondation dans Paris. Bon, tout ça est scandaleux. Et sans ce scandale, sans les failles dans les conformismes du temps que cela opère, on ne voit pas comment seraient passés les arts et les sciences. Les arts et les sciences sont passés par ce grand scandale du rire. Et depuis l'Antiquité, notre civilisation, on le voit bien même dans les dialogues de Socrate et de Platon, enfin dans les dialogues de Platon où il y a Socrate, qu'il y a toujours une forme d'humour chez les pré-socratiques, il y a de l'humour. Et quand la civilisation grecque, la raison grec s'hybride avec la loi juive, c'est ce qui fait l'Europe, c'est ce qui fabrique l'Europe, le rire, la transgression du rire est omniprésente. Et c'est le rire, c'est la destruction créatrice de notre civilisation européenne. Voilà, alors bon, c'est un peu langue de bois.
C'est vrai que de temps en temps, en même temps, et on connaît ça notamment avec Louis XIV, les dévots étaient très formidable. Présents et ils imposaient Tartuffe. Tu n'avais pas le droit de jouer Tartuffe quand même.
Oui, mais il l'a fait. Oui. Il a fait Tartuffe. Oui. Il a fait Tartuffe et ça lui a coûté cher, mais il l'a fait. Mais en fait, il l'a fait dans toutes ses pièces.
Mais parce que
Molière est un génie.
Oui, mais parce que Louis XIV.
Louis XIV protège. Pourquoi voilà, protège. Parce que ça le distrait.
Oui.
De la même façon.
Oui, puis ça te sert peut-être politiquement de faire passer quelques messages contre les uns ou les autres.
Oui, et puis en même temps, ça met un peu de sable pour cacher la merde au chat de ces frasques sexuelles qui sont nombreuses, le roi aussi. Il n'est pas très catholique, si vous voulez, dans ses façons. C'est un roi très catholique, pas très catholique. Et donc, il sait bien que la réalité humaine, qui est toujours étonnante, toujours stupéfiante, toujours scandaleuse, et parfois très drôle, même quand elle est assise sur du tragique, cette réalité humaine, il en a besoin. Il en a besoin parce qu'on a besoin du réel pour se réveiller, on a besoin du réel. On voit bien aujourd'hui à quel point les gens refusent. La tristesse aujourd'hui, c'est le refus de la réalité.
Il est 12h13, on va marquer une pause et puis je vais vous parler de Dieudonné peut-être, parce que l'autre jour lorsque vous êtes venu sur CNews, on n'en a pas parlé, je me suis dit après j'aurais dû lui parler de Dieudonné. Dieudonné, je considère que c'est un des hommes qui a le plus de talent ou qui en a eu le plus en tout cas dans cette...
C'était un comédien très talentueux.
Voilà, et dans cet humour et de ça. Et évidemment aujourd'hui, pour ses prises de parole... il est exclu. Donc ça, on est au cœur d'une vraie question. Est-ce que Dieudonné, par ses prises de parole, doit être exclu de la sphère médiatique, ou est-ce que le talent, finalement, pardonne tout ? Voilà une vraie question, une bonne question en tout cas pour Philippe Val.
Ça heurte plus que la morale, c'est-à-dire que ça induit en erreur un public. Et parce que en fiction, dans la création, je pense que la liberté d'expression est immense. Et je pense que la loi française est assez bien foutue. J'y ai été confronté, puisque j'étais directeur de publication pendant très longtemps, donc j'ai fréquenté la 17e chambre, même parfois pour des courriers de lecteurs, c'est-à-dire des choses, voilà. Et je pense que c'est assez bien fait. Dieudonné, il est sorti des clous, avec tout son talent. C'est-à-dire qu'il est sorti de la fiction, ou du sketch à proprement parler, pour prendre des positions qui sont des délits, en réalité, le délit d'antisémitisme, le délit de négationnisme. Alors on peut discuter la loi sur le négationnisme. Moi, je pense que c'est une loi nécessaire à une certaine époque. Je dis pas que c'est une loi. Après, il y a des chercheurs. Il faut savoir contredire ceux qui le contredisent. Il faut savoir. Il faut travailler pour rendre ridicule les négationnistes.
C'est la loi Guesso, hein.
C'est la loi Guesso, absolument. Moi, j'y étais favorable à la loi Guesso. Parce que je sentais pousser à une époque une grosse passion négationniste, notamment à l'extrême gauche. Et dans les années 80, et on appelait cela la vieille taupe. Il y avait une librairie, je connaissais tout ça par cœur. Bon, et donc Dieudonné vient de ça. C'est je pense que c'est une extrême gauche dangereuse dont on voit aujourd'hui que la banalisation. C'est répandu, puisque c'est ce qui arrive maintenant dans les manifestations sur Gaza. C'est les enfants de cet antisémitisme d'extrême gauche dont Dieudonné a été un des artisans. Donc la loi est bien foutue. Quand il y a des appels à la haine, des appels à la discrimination, on sort du sketch. Surtout, aujourd'hui, on est très 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 ennuyé parce que la puissance de ces dérapages est considérablement augmenté, infiniment augmenté par les réseaux sociaux, et on ne sait pas comment faire du point de vue de la loi, de ce point de vue-là.
Je salue Alain Jakubowicz qui nous écoute et qui dit « Il y a bien longtemps que Dieudonné a quitté le monde de l'humour pour entrer dans celui de l'idéologie. Ce n'est plus le rire qu'il provoque, mais le fiel. Le rire est l'antidote de la haine. Lui en est le moteur. » Et je me permets de dire à M. Jakubowicz qu'on l'attend sur ce plateau ou d'Europe 1 ou de CNews. Il y a longtemps qu'il n'est pas venu nous voir.
Et alors, je salue Alain, que je connais bien et que j'aime bien.
Peut-on rire de tout? Ça, c'est la question la plus banale qu'on pose aux humoristes. On pose souvent la fastidieuse question aux humoristes. Peut-on rire de tout? C'est une question optimiste. Elle suppose qu'on peut rire de certaines choses. Rien n'est moins sûr. Il existe sur toute la planète des sphères religieuses et politiques puissantes où l'on ne peut rire de rien. Que nous n'en soyons pas effrayés est effrayant. Peut-on rire de tout est une question mesquine. Un pauvre piège grossier qui donne le beau rôle au questionneur, car le questionné ne peut s'en sortir que par une pirouette plus ou moins satisfaisante. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, répondait Pierre Desproges, qui rend la question plus noble que la réponse. C'est très sérieux, hein, finalement, l'ouvrage que vous avez fait.
Oui, c'est modestement un ouvrage philosophique. Enfin, c'est un travail de recherche sur les faits du spasme, du rire sur nous. Et j'espère pouvoir... ça donnera le goût de ce spasme au lecteur. C'est presque un mode d'emploi pour arriver à ce spasme qui fait tant de bien, qui est l'éclat de rire. On peut pas rire de tout, on peut rire de rien en réalité. Parce que chaque singularité, notamment aujourd'hui, puisque c'est très exacerbé, chaque identité est victime d'une identité autre que la sienne, qui est différente et qui l'offense. Donc tout devient sacré et tabou. Par exemple, dans l'histoire des caricatures, j'étais au cœur de cette histoire à Charlie Hebdo, des caricatures de Mahomet, je disais aux musulmans, je leur disais, je comprends que ces caricatures ne vous plaisent pas. Elles sont tabou chez vous. Le dessin est tabou chez vous. Je comprends que vous ne dessiniez pas et que vous ne représentiez pas le prophète. Mais ce n'est pas tabou pour moi. Si vous commencez à vouloir rendre tabou pour tout le monde ce qui est tabou pour vous, comme il y a 10 000 religions dans le monde, et qu'il va y avoir des jours où on n'a pas le droit de manger pour les uns, pas le droit de faire l'amour, pas le droit de faire ceci, pas le droit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il n'y aura plus d'humanité dans 20 ans, tout le monde sera mort de faim, de soif et de frustration sexuelle. Donc, il faut que chaque religion respecte ses tabous si elle veut, mais n'emmerde pas les autres qui ont d'autres obligations, ou qui n'en ont pas, ou qui croient en rien. Donc, on peut rire de rien, mais en réalité, je pense profondément qu'on peut rire de n'importe quoi.
Je pense aussi que vous avez raison et j'aimerais tant. Les sketchs, vous en parlez, les sketchs inoubliables, les plus efficaces, les plus hilarants, les plus historiques sont ceux qui, depuis Homère, se jouent à deux et toujours avec un clown blanc et un Auguste. Alors, tout le monde ne sait pas d'ailleurs ce qu'est un clown blanc et l'Auguste. Il faut le rappeler peut-être.
Alors, le clown blanc, il est très... Il a l'air pincé un peu, il a l'air un peu conformiste, il a un sourcil réprobateur tracé dans le front en hauteur comme ça, pour bien montrer sa réprobation ou son étonnement un peu.
C'est Jean Poiret.
C'est Poiret, exactement.
Et puis l'Auguste.
Et puis il y a l'autre qui est un peu foutraque, qui dit des choses qu'il ne faut pas dire à côté, et qui est l'Auguste, voilà.
Alors, vous citez comme, alors vous dites Don Quichotte et Sancho Panza, pourquoi pas Bouvard et Pécuchet. Bouvard et Pécuchet, c'est formidable. Parce que deux imbéciles qui parlent ensemble, c'est ce qu'il y a de plus drôle.
C'est formidable. Il était obsédé par la bêtise.
Oui, mais c'est formidable. C'est merveilleux. Deux imbéciles qui parlent ensemble. Mais alors, vous mettez aussi Charles de Gaulle et André Malraux dans les sketchs. Donc là, franchement, vous n'êtes pas sympa pour.
Oui, mais il y a.
Parce que qui alors, qui est l'Auguste et André Malraux, forcément.
Ah non. Oui, l'Auguste. Oui, c'est moi, j'adore Malraux, hein, par ailleurs.
Chaban s'en souvient bien.
J'ai un grand respect pour le général de Gaulle. Mais il y a un long chapitre sur le général de Gaulle.
Oui. Qui était très drôle.
Oui, il était très drôle.
Qui était merveilleusement drôle, même.
Alors, ouais, c'est une des thèses de mon livre. Ça concerne de Gaulle, ça concerne Churchill, ça concerne Salvador Dali, Brassens. Tous des gens, Gainsbourg, dont je parle aussi parce que je raconte une histoire à propos de Gainsbourg à ce sujet-là. C'est que tous ces gens qui étaient très drôles avaient un personnage qu'ils ont fabriqué consciemment. Dès leur jeune... Gainsbourg avait... Gainsbourg bourré, et là, après, il a fini par boire vraiment, mais moi, j'ai un souvenir très précis. On a fait des émissions ensemble, on discutait dans un coin, tous les deux. On a buvait de l'Orangina pendant 2 heures, parce qu'il y avait des répétitions pour les émissions de radio à l'époque. Et quand le moment arrive où Mourouzi va interviewer Serge, Serge est bourré. Il a bu 3 Oranginas. Et donc, il joue, il est tellement timide, il est tellement déchiré. C'est un type formidable, très, très poli, très courtois, très intelligent, très drôle, très fin. Mais dès que Mourouzi, alors il fait Gainsbourg, qui est comme ça, voilà. Et parce qu'il ne peut pas faire autrement, et ce personnage, alors le général de Gaulle c'est pareil, de Gaulle est un personnage, enfin, évidemment c'est pas le même, mais de Gaulle est un personnage tourmenté, un peu dépressif, passionné, dépressif, fragile, et il veut sauver la France dès la fin de la guerre 14. Il construit le personnage du général de Gaulle, qui est un personnage très ferme, qui est un personnage très autoritaire, qui va lui donner une grande liberté. Parce que quand lui veut pas faire certaines choses, il dit « Oui, mais le général de Gaulle peut pas faire autrement. » Et le général de Gaulle, par exemple, disait, à un moment donné, il dit « Mais ça me fait de la peine, ce pauvre Winston, comment je... » Churchill, il s'engueulait, comme chacun sait, beaucoup. Il admirait énormément Winston Churchill, il avait une admiration sans borne pour lui. Et il disait « Ce pauvre Winston, je le traite, je l'insulte, je l'engueule. » Mais ça me fait beaucoup de peine, mais le général de Gaulle ne peut pas faire autrement.
Le livre est évidemment formidable. Alors, il y a une galerie de portraits, parce que ce qui est, et puis on en parle là, ce qui est étonnant dans votre vie et pas si fréquent, c'est les rencontres.
Oui.
Vous avez vraiment rencontré des icônes, Coluche, Michel Jonas, vous avez rencontré Gainsbourg. Ce sont des gens aujourd'hui, quand je dis icônes, qui sont, appartiennent à une certaine mythologie, Coluche.
Ah oui, bien sûr. Coluche, je l'ai connu, j'ai vu Coluche dans une salle, on était 3 dans la salle, dont un, Lederman, son producteur.
C'était au Café de la Gare ? C'était
non,
avant
c'était
le Café de la Gare ?
C'était au théâtre La Bruyère, je crois, c'était au théâtre La Bruyère.
Et là, on est en quelle année ? C'est avant la salopette ?
73 ou 12. Ouais.
Et il sort en 74 ou 75 avec C'est l'histoire d'un mec.
Absolument.
Qui est une révolution, Coluche, parce que les plus jeunes ne s'en rendent pas compte. Mais moi, j'ai 11 ans, t'as Fernand Reynaud, t'as un type de comique qui existe. C'est une déflagration, Coluche. Et comme toujours, c'est une déflagration. Par exemple, les gens qui avaient 70 ans, en l'occurrence, c'était mes grands-parents, alors pour eux, ils ne comprenaient pas. C'était impossible à comprendre. Tu sortais de la boîte à sel, de Robert Roca, de Jean Valton, des humoristes, etc. Et là, t'as Coluche.
C'est vrai que ça a été une vraie découverte. Alors, je l'ai vu, je le connaissais pas intimement, mais j'étais pote avec Lederman parce que son impresario, parce qu'on travaillait pour le Luron, j'écrivais des trucs, des parodies, enfin bon bref.
Mais c'est ça qui est fou dans votre itinéraire. D'abord, vous êtes un homme multiple, ce qui est pas si fréquent. Je veux dire, vous êtes écrivain, vous êtes chanteur, vous êtes comédien, vous êtes essayiste, vous avez été dirigé France Inter. C'est pas si fréquent non plus d'être multiple. Je sais pas ce que vous avez préféré faire d'ailleurs. Mais vous nous le direz.
Mon travail principal, c'est écrire.
Oui. On objectera qu'aujourd'hui en France, il n'y a pratiquement que des comiques de gauche, c'est tout le problème. Ils ne sont pas drôles parce qu'ils sont de gauche, ou alors ils sont de gauche parce qu'ils ne sont pas drôles. Ça marche dans les deux sens. En d'autres temps, on aurait pu dire la même chose avec la droite. Ils ne sont pas drôles, nos amis de France Inter ?
Non, c'est-à-dire que je pense que aux États-Unis, ils ont trouvé un mot, c'est les clappers. Les clappers, c'est les comiques qui font rire Enfin, c'est des artistes qui font rire pour des raisons politiques et qui s'adressent à un public avec lesquels ils sont d'accord. Et qui rassemble comme un petit parti politique où on va faire des vannes sur la partie adverse. C'est-à-dire, on n'aime pas Macron, bon, on va dire des conneries sur Macron et on va applaudir. Ah, on est tous d'accord, on est content et on rigole parce qu'on dit du mal de Macron. Donc ça, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas du comique, c'est autre chose. C'est de la satire politique de base, je sais pas. Mais pour moi, le rire est une surprise. On ne s'y attend pas. C'est le contraire de ça. C'est-à-dire qu'on rit. On révèle quelque chose de nous-mêmes, c'est pour ça que ça nous libère. On ne savait pas qu'on allait rire à cette énormité, à cette chose très vulgaire, très lourde peut-être, très incroyable ou très transgressive. C'est plus fort que nous, on rit. Et c'est ce plus fort que nous qui est génial et qui nous fait du bien.
Et voilà aujourd'hui pourquoi. Ils sont pas très drôles, quoi.
Ah ben non, moi ça me fait pas marrer, mais par contre il y a des gens qui me font marrer. On parlait de Ricky Gervais l'autre jour. Ricky Gervais, c'est énorme parce que je sais pas ce qu'il va dire. Et par exemple vous prenez l'humoriste, comment elle s'appelle,
Blanche Gardin,
que j'aime beaucoup. Si vous lisez ses interviews, vous allez voir, vous allez trouver ça insupportable parce qu'elle est très France Insoumise, très voilà. Mais quand elle est sur scène, elle s'adresse à tout le monde. Oui. Et c'est très noble. C'est comme Jean Ferrat, qui était communiste, mais qui faisait de la chanson pour les gens de droite comme pour les gens de gauche. Il essayait de faire une belle musique, de chanter un beau texte.
Voilà. Et puis il y a quelque chose qui est important, c'est que c'est le récepteur qui fait l'émetteur. C'est-à-dire que, par exemple, Géraldine, absolument, elle rit. Ouais. Et elle rit à mes blagues. Donc elle me permet d'en faire. Parce qu'il y a des gens, vous regardez, elle rit
ça
déjà.
Inspire.
Elle rit, bon. Oui, parce qu'il y a ça des inspire. Gens, tu sais que tu les frappes à rire du tout. Donc c'est évidemment, t'es terrorisé. Parce que, comme nous, on dit que des bêtises. Moi, quand tu rencontrais quelqu'un pour la première fois, quand t'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, t'avais pas lui parlé de Platon. Donc tu disais une ou deux bêtises. Et tu voyais tout de suite si la fille était réceptive à l'humour, en tout cas la fantaisie, l'esprit. Il y a des gens, tu ne peux pas leur faire rire parce que c'est une langue étrangère parfois, l'humour.
Moi, je pense qu'on ne peut pas se dire des choses importantes sans rire à un moment ou à un autre. Sinon, ouais, ça ne passe pas. Je pense que les grandes vertus, courage, loyauté, les vertus théologales, charité, etc. Tout ça, elles sont horribles. Elles deviennent morbides et dangereuses si au-dessus, il n'y a pas la légèreté, la fantaisie.
Oui. Et parfois, dans des dîners, vous savez que vous allez vous ennuyer, ou pas d'ailleurs, mais un vrai dîner réussi, c'est quand on arrive.
C'est quand on arrive, voilà, évidemment.
Et c'est toujours un miracle, une magie.
C'est une magie.
Et parfois, on n'a pas ri, mais quand on arrive, on dit qu'est-ce qu'on... Et le lendemain, on s'appelle, on dit qu'est-ce qu'on arrive.
Et d'une façon plus encore profonde, on pourrait dire que pourquoi on arrive ? Parce qu'à un moment donné, la réalité nous a surpris. Nous a surpris dans...
Et puis parce qu'il y a des gens qui sont plus drôles que d'autres aussi.
Voilà. Et puis quelque chose de réel qu'on a l'habitude de cacher a explosé, que ça soit poli ou non, scandaleux ou non, c'est ça qui nous a fait rire. Et c'est un certain rire, avoir l'habitude... Cultiver peut-être le rire, c'est aussi cultiver un certain rapport à la réalité qui est loin de la tristesse, du jugement moral, etc. D'abord, on est stupéfait, d'abord, on est émerveillé que, pour dire ça d'une façon un peu pédante, il y ait quelque chose plutôt que rien.
Bon, bah écoutez, merci. Merci parce qu'on vous écoute tous les lundis et c'est vrai que. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très drôle aussi. Vous parlez des essayistes, des sociologues, des donneurs de leçons, etc. Et vous dites, ils ont un point commun, tous ces gens-là. Vous parlez des Louis Plenel notamment, ils ne sont pas drôles du tout.
Pas du tout.
Ça, et vous dites, ils ne veulent pas du bien, je crois.
Non,
ils ne veulent pas du bien parce qu'ils sont pas drôles.
J'ai beaucoup de soupçons pour les gens pas drôles.
Mais oui. Mais je suis comme vous, en fait. Je me méfie. Robespierre, il n'était pas drôle.
Pas marrant, non.
Et Robespierre, il n'était pas drôle. Et paraît-il, j'ai appris ça récemment, moi, je ne le savais pas. Il était vierge.
Sans doute, il était puceau, oui.
Ouais, ça en dit quand même, je trouve que ça en dit beaucoup.
Il y a quelque chose de très sinistre dans les gens qui veulent le bien de tous, de l'humanité. Il avait fréquenté Jean-Jacques Rousseau, il l'avait vu, il avait été le voir 20 ans avant la Révolution française. Il avait été lui rendre visite et il lui a inoculé le virus de la gravité, je pense.
Oui, la componction, vous avez l'esprit de gravité.
La gravité, la pureté. Mais c'est l'ennemi de la vie.
Mais je suis d'accord, et quand on voit, par exemple, moi je regarde beaucoup d'émissions culturelles, et j'ai grandi avec Pivot, avec Chancel, etc. C'était la malice, c'était une sorte de...
Et José Arthur.
José Arthur, Pierre Baudrier. Je vois les émissions culturelles aujourd'hui, je ne veux pas les citer, bien sûr, mais je trouve qu'il y a une sorte de gravité, il y a quelque chose de lugubre, il y a une sorte de messe funéraire, de funèbre. Bon, alors que Pivot, c'était drôle, et tu pouvais jouer avec les gens.
Et un vrai grand auteur, ou une grande autrice, je ne sais pas comment on dit, c'est des gens drôles.
Bah, oui.
Au fond, ils ont un fond d'humour, oui, même si ce fond d'humour n'est pas apparent tout de suite.
Vous avez parlé de Proust l'autre jour, c'est vrai que Proust est drôle, mais tout le monde ne voit pas cette drôlerie-là. Non. Bon, il est 12h38 et je voulais parler... D'abord, je vous remercie, Philippe.
Merci, Pascal.
Il nous reste quelques minutes et on voulait parler de ces écrans. Et vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, c'est pas à l'État de se mêler de ça. Ben, y a quelqu'un qui nous a écoutés et qui dit « Pardonnez-moi, cher Pascal, mais vous êtes à côté de la plaque. Lorsque vous dites ce n'est pas l'État de dire aux parents de ne pas mettre les enfants sur les écrans, c'est faire fi de l'obligation morale pour l'État de mettre en place des politiques de santé publique ou des politiques sanitaires dans les démocraties. C'est comme cela que l'État a éradiqué l'alcoolisme ouvrier au début du XXe siècle. Cela s'appelle gouverner. » Je ne sais pas si elle est très drôle, cette dame, mais c'est vrai, j'entends.
En fait, mais elle n'a pas tort.
Mais bien sûr qu'elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Et vous avez pas. Et c'est toute la difficulté parfois de ces choses-là.
Mais on peut s'en moquer.
Mais on peut s'en moquer.
Voilà.
Et on doit. Et si on peut, on doit.
Et si on peut, on doit.
Bon, Anne-Marie est avec nous. Bonjour Anne-Marie. Vous êtes maman et vous êtes mamie.
Oui, bonjour Pascal.
Vous avez des enfants qui ont, des petits-enfants qui ont quel âge ?
Alors, non, mes enfants ont 36 et 33 ans, et mon fils de 33 ans vient d'avoir un petit bébé, Jean-Baptiste, qui vient de naître vendredi dernier.
Ah, Jean-Baptiste voilà. Comme Molière.
Voilà, entre autres.
Oui. Bah, entre autres, oui, comme vous dites. Je salue M. Val qui s'en va du studio. Merci M. Val. Bon, là, le problème ne se pose pas, il vient de naître, vous n'allez pas le mettre devant un écran, il a 8 jours.
Dans les écrans, c'est sûr.
Ou alors devant Europe 1, peut-être.
Oui, voilà, éventuellement. Non, je voulais juste apporter mon témoignage, comme quoi je ne comprends pas la nécessité de donner des téléphones portables à des enfants qui sont à l'école primaire. Ça n'a aucun intérêt, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Je ne vois pas ce qu'ils font avec.
Mais parce que c'est une manière de calmer les enfants. Moi, je vous ai dit...
Mais de calmer les enfants.
Mais parce que vous les mettez devant, vous avez la paix. Et puis vous pouvez faire autre chose. Moi, je vois, par exemple...
Démission totale de l'éducation des parents.
Ah, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, c'est la démission.
Bah oui, mais alors, et c'est pour ça que vous venez de citer une dame là qui a dit que c'était quand même l'État de faire quelque chose, et c'est pas complètement faux. Quelque part, il y a quelque chose à faire dans la prévention et dans l'éducation même des parents. Voilà, c'est moi je le vois comme ça.
Bon,
et
écoutez, Jean-Pierre Coutron, il est addictologue, il était interrogé par Laurent Tessier sur cette addiction pour les enfants.
Quand on dit pas à 23 ans, ça ne veut pas dire qu'il faut arracher et planquer tous les écrans dans la maison, mais qu'il y a une façon de laisser l'enfant seul face à l'écran trop tôt qui est dangereuse. La deuxième, c'est votre enfant va devoir apprendre, donc soyez avec lui, accompagnez les phases d'apprentissage et accompagnez-les en fonction de la façon dont il grandit, dont il mature socialement, dont il mature au niveau neurologique. C'est là que les rapports sont importants à donner. Et troisièmement, oui, il y a des écrans plus dangereux que d'autres, il y a des jeux plus dangereux que d'autres, il y a des situations plus dangereuses que d'autres. On va essayer de demander à l'industriel d'en tenir compte, mais vous, en tant que parent, exercez votre vigilance de parent.
Vous avez combien de petits-enfants, à part le petit Jean-Baptiste qui vient de naître, Anne-Marie ?
J'en ai pas d'autres. Je n'ai pas d'autres.
Ah oui, donc vous n'êtes pas confronté.
Mon fils aîné ne veut pas d'enfants, donc ça va être compliqué d'en avoir d'autres.
Bon, mais ça vous... pourquoi ça vous fait sourire ?
Non, mais voilà, parce qu'on peut rire de tout.
Bah oui, non, mais ça, alors ça vous ennuie de ne pas avoir que votre fils aîné ?
Ça me rend triste, mais quelque part, je peux les comprendre. Vu le monde dans lequel on commence à évoluer, je peux les comprendre. Mais
quel âge il a, votre fils aîné ?
36.
Et donc, il dit pas d'enfants ?
Non, pas d'enfants.
Mais il a une fiancée ?
Oui, il se marie, là, au mois de juin.
Et sa fiancée, évidemment, est raccord avec ça ?
Exactement.
Alors, vous êtes beaucoup occupé de votre fils aîné, Anne-Marie ?
Je me suis beaucoup occupée de mes enfants, oui.
Oui,
travailler à temps partiel, et donc je m'en occupais beaucoup.
Je ne veux pas faire de psychanalyse sauvage, mais peut-être qu'il a envie qu'on s'occupe que de lui, votre fils. Et peut-être que sa fiancée qu'il a trouvée, sa femme qu'il a trouvée, c'est sa maman qui s'occupait de lui quand il était petit.
Pascal, je n'avais pas pensé à ça. Vous m'en donnez un nouvel éclairage.
mais comment elle est, sa fiancée ? Vous l'aimez bien ?
Ah oui, moi je l'aime bien.
Et elle s'occupe bien de lui ?
Elle s'occupe bien de lui, mais elle a eu de gros problèmes avec sa mère, des rapports conflictuels avec sa mère, avec son père. C'est compliqué, son histoire de famille est compliquée.
Toutes les histoires sont un peu compliquées, rassurez-vous.
Oui.
Mais peut-être qu'elle s'occupe bien de votre fils et que lui, il a envie qu'on s'occupe que de lui.
Ah oui, mais voilà, exactement.
Ça peut arriver.
C'est sûrement ça.
J'en sais rien,
un nouvel éclairage, c'est rigolo ça, j'avais pas pensé à ça.
Bon, monsieur Boubouk,
Pascal Praud.
Vous n'avez pas donné beaucoup de messages aujourd'hui, me semble-t-il.
Non, si, plus que d'habitude, j'ai fait quand même un point Facebook, alors que j'en fais normalement zéro. Alors attendez, je suis sur une performance.
Mais dans le temps, il était... Et vous ne nous parlez plus non plus de la page Facebook. Ah, je ne sais pas combien elle est aujourd'hui.
Elle est en pleine expansion.
Oui. Ah non, non, mais alors là, c'est l'univers qui est en expansion, mais votre page Facebook,
bah, la page Facebook aussi.
On en est à combien de...
Non, là, on est à plus de 27 000. Vous vous rendez compte? Non, mais
pas mal.
Vous rendez compte le génie de Facebook que vous avez devant vous? 27 000. Pendant qu'en face, à la Maison Rouge, ils sont à 30 000. Pour une émission similaire, en 10 ans, page Facebook.
Mais fichez-leur la paix.
Ah, pardon, oui, non, mais juste pour dire, pour dire que j'ai fait mieux en un an. Hein.
Bon, Anne-Marie, vous êtes esclave des écrans pour terminer la conversation sur ce sujet ou pas? Parce que moi, je le suis, par exemple. Je suis esclave de mon portable. Ouais. Je vous le dis, quand je perds mon portable, c'est pire que perdre mes clés. Vous voyez, parce perdre mes clés, je me dis, je vais casser la porte. Mais perdre mon portable, là, il n'y a pas de solution.
Il y a toute votre vie,
on est mal. C'est vrai qu'on est devenu esclave de ça, alors nous sommes une génération qui avons grandissant, et je sais pas comment on a fait pour en devenir esclave. J'arrive pas à le comprendre.
Ben c'est le besoin, c'est l'envie qui est devenue un besoin.
Et oui, exactement, mais c'est tout à fait ça. Mais en revanche, il y a quand même un truc que je voulais dire justement par rapport au portable après dans les collèges. Mmh. Puisque moi j'avais dit à Olivier, monsieur Boubouk, que je pensais que c'était qu'à partir de la quatrième que c'était nécessaire pour des raisons de sécurité, voilà, des enfants qui appellent ou quoi. Mais j'ai entendu là justement dans le reportage qu'ils mettaient des QR codes sur dans les documents qu'ils distribuaient aux enfants. Donc en fait, ça oblige, même l'éducation nationale va obliger les enfants ou les parents à avoir un écran pour lire ces QR codes. Et déjà, il y a un truc.
Bon, alors le QR code, c'est effectivement, je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce qu'est un QR code, mais on scanne. Mais scanner, je ne suis pas sûr que tout le monde sache
ce qu'est un QR code.
Donc vous nous avez perdu. Bon, merci beaucoup, Anne-Marie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a trouvé enfin? Est-ce qu'on peut se. Au revoir, Anne-Marie. Passez une bonne journée. Vraiment, passez une bonne journée, Anne-Marie. Et rappelez-nous, est-ce que nous avons. Regardez, ça c'est super. Ça c'est le discours des rois. On parlait tout à l'heure, alors je le dis pour ceux qui n'étaient pas là dans la première heure, et il parlait d'espoir, on a parlé d'espoir Belle Hélène, et de la Belle Hélène on est arrivé à Offenbach, et d'Offenbach on est arrivé au discours des rois dans la Belle Hélène, je suis l'époux de la reine. Alors là c'est l'introduction, elle est un peu longue parce que, évidemment, mais après les rois arrivent, Paris, hop, et là vous allez avoir les rois, je suis le roi Ménélas. Alors, c'est l'introduction, là, il nous a mis l'introduction, mais on appelle le discours des rois.
Ça vient après,
qui devrait arriver après l'introduction.
Vous appelez ça comment, Offenbach?
Vous connaissez pas Offenbach? C'est la première fois que vous entendiez ce nom-là.
Si,
Jacques
les DJ. Je les connais, hein.
Les DJ?
Oui, c'est un groupe de DJ,
c'est vrai,
Offenbach.
Ah bon?
Ça s'écrit pas pareil, Offenbach.
Ouais. Alors, je me doute. Écoutez là. Écoutez. Je suis. La légèreté de Offenbach. Je suis les babis qui se lancent, c'est pas je suis
pas 1864.
Oui, j'étais à la création.
Europe 1, le grand débrief de Pascal Praud et vous.
Et c'est Laurent Tessier qui arrive dans le studio.
Et je suis là, alerte polémique sur les réseaux sociaux. Avec la remarque de Léa Salamé à l'humoriste Artus samedi soir sur France 2, il donnait sa technique pour gérer ses angoisses.
J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer.
Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé, mais vous êtes chiant.
Alors le débat s'anime dans l'émission. Certains, par exemple, en soirée, incitent-ils d'autres à boire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Personne, je n'ai pas le sentiment non plus que des gens obligent à boire les autres. Vous avez ce sentiment? Diriez aux gens, bois, quelqu'un boit de l'eau.
Ah non, surtout pas.
Alors, vraiment, cette société devient compliquée.
Ben oui, en plus, ça ne se fait pas. Alors, 10 minutes plus tard, Pascal, vous avez reçu un message de madame. Hein.
Je reçois un petit SMS de mon amoureuse qui me dit « Et quand tu me dis que je n'ai qu'un défaut, que je ne bois pas, bien sûr qu'il y a une pression sociale qui pousse à boire.
» Et toc. Bon, dans l'émission, nous avons toujours des questions...
Non essentielles.
Non essentielles. Ah, et aujourd'hui, direction le sud de la France, le département de l'Hérault.
qu'on dit Montpellier. Moi, j'ai toujours dit Montpellier. Ou Montpellier.
Ah oui.
Moi, je dis Montpellier.
Mais moi, je dis Montpellier. Mais vous dites pas une pelle. Vous dites une pelle.
C'est cela, oui, oui, oui.
À demain pour un nouveau débat non essentiel. Bon, vous savez aussi que DJ Fab adore mixer le week-end en boîte de nuit. Eh bien, DJ Fab est très excité à l'idée d'envoyer ses jingles. La passion l'emporte. C'est l'heure de la nouvelle rubrique. La jingle party. Oui, c'est la jingle party. Et dans la jingle party, on envoie très vite les jingles.
C'est surtout un trait d'humour. Voilà, Pascal.
11h41, monsieur Pascal Pro sur Europe 1.
Ah bah maintenant je suis au taquet. Hein.
C'est la mode là, les jingles dans la figure.
Comment ça va bien aujourd'hui
Ça va très bien.
Fabrice,
ah oui, ça va très bien, je suis à mon 10e café.
Et dans la jingle party, on balance les jingles quand on veut.
Bon allez, on va parler de Sciences Po.